Ah, c'est pas évident. Surtout que, bah voilà, moi, je découvre un petit peu l'envers du décor. Hein. C'est la première année, il faut que je m'habitue un petit peu à l'espace. Et c'est pas franchement facile, par exemple. Je suis allé l'autre jour dans la loge des joueurs. Et donc, il vous faut déjà donner votre carte de presse, l'échanger contre un brassard. Puis là, on pénètre dans des lieux quand même assez particuliers. Vous avez les joueurs avec leurs sacs qui sont en train de discuter sur des canapés avec leur entraîneur. Puis vous arrivez là au milieu avec votre air de petit nouveau. Vous regardez à gauche, regardez à droite, vous regardez encore une fois à gauche, un petit peu comme un enfant qui va traverser au passage piéton. Puis là, vous êtes catalogué directement, quoi.
Vous êtes le petit nouveau.
Exactement. Le petit nouveau qui s'attarde quand même avec des grands yeux sur le corps central, parce qu'il faut savoir que nous, on est placé dans la salle des radios. On a une espèce de salle avec plein d'écrans qui marche une fois sur deux, parce qu'il y a quand même pas mal de bugs. Hein. C'est une machine bien huilée. On a l'impression, quand on regarde comme spectateur, que tout roule, tout marche comme sur des roulettes à Paris. Mais en fait, c'est pas tout à fait le cas. Il y a pas mal de problèmes, de petits bugs. Internet, par exemple, il fonctionnait pas pendant pratiquement toute une journée. À la réception, on nous dit, voilà, normalement, vous devriez avoir le quotidien à l'équipe. Il est 9h30. Hier, il n'était pas arrivé à 9h30. Normalement, il aurait dû arriver. Oh, vous savez peut-être qu'on va pas le recevoir. Donc, finalement, ce que vous faites, c'est que vous allez au kiosque le plus proche pour vous acheter l'équipe. Voilà.
Donc,
on arrive sur le corps numéro 1, excusez-moi Joël, pour voir Stanislas Wawrinka. On n'aurait jamais dû nous laisser monter par un escalier. Alors finalement, pour descendre, on nous indique les places des photographes. Alors, c'est pas tout à fait ça, les places de presse. Et puis finalement, on y arrive quand même. Mais il y a pas mal d'approximations. Quand même, le directeur général, Gilbert Izerne, m'a posé un lapin d'une demi-heure. Alors, vous allez avec l'attaché de presse. Vous dépassez les contrôles de sécurité pour aller dans la loge présidentielle. Vous attendez une demi-heure. Vous attendez encore 5 minutes de plus. Finalement, il vient pas. Donc, vous repartez. Puis, vous retournez le lendemain pour finalement pouvoir le rencontrer. J'ai pu le rencontrer, finalement, Gilbert Izerne. Donc, je lui ai posé quelques questions sur le dopage. également sur. Donc, j'ai profité. Voilà, c'est ça. J'ai profité de lui poser un petit peu toutes les questions qui me passaient par la tête.
Donc, une organisation qui est peut-être un peu moins méticuleuse que pour un événement en Suisse.
Oui, absolument. Enfin, en tout cas, c'est pas la précision d'horloger, mais c'est assez sympathique. Hein. Vous avez quand même vraiment un contact assez chaleureux avec les gens, les bénévoles qui sont là, qui vous racontent un petit peu leurs histoires à la parisienne. C'est tout de suite très, très attachant. Donc, on aime, quoi. On aime cette imprécision à la française, ce charme à la française. Et je crois qu'il y a une sympathie quand même générale pour ce tournoi, même s'il n'y a pas de toit et que les joueurs râlent parce qu'il n'y a pas de toit. Quand il pleut, on peut pas jouer. Quand il y a l'obscurité, on peut pas jouer. On parle beaucoup de la reconstruction du stade qui piétine. Hein. On parle d'un nouveau stade qui serait terminé en 2018. Mais il y a une décision de justice qui est défavorable, justement, à ce redimensionnement. Et donc, on n'est pas encore sûr d'avoir un tout nouveau Roland-Garros. Normalement, les travaux devraient commencer l'année prochaine et devraient aboutir à la création, enfin, d'un toit amovible sur le central qui sera un peu repensé, modernisé. Et normalement, l'espace devrait être agrandi, devrait un petit peu manger le jardin des plantes qui est juste à côté. C'est surtout ça qui pose problème, en fait.
Alors, vous parliez de la pluie, hein, comme presque chaque année, la pluie, elle joue les troubles faits à Roland-Garros. Comment, quand on est journaliste et puis qu'on doit couvrir l'événement, comment on passe le temps lorsque tous les cours sont bâchés à cause de la pluie?
Alors, c'est ce que j'ai découvert, la temporalité à Roland-Garros, c'est peut-être un petit peu différente qu'ailleurs. Je suis arrivé un des premiers jours à 9h, toutes les salles étaient fermées, il n'y avait personne, j'ai dû demander la clé.
Et on vous l'a donné en plus.
On me l'a donné, bien sûr, on me l'a donné, on me l'a confié, n'est-ce pas? Tout en me disant que si j'étais le dernier, je pouvais fermer la salle, puis si j'étais pas le dernier, fallait la transmettre à quelqu'un d'autre, au lieu de reprendre la clé. Quand je vous parlais d'organisation à la parisienne, mais j'étais beaucoup trop tôt sur place et j'ai compris mon erreur un petit peu plus tard, parce que hier, par exemple, Stanislas Wawrinka termine son match très très tard. Là, vous êtes au deuxième set, vous espérez qu'ils finissent absolument en 3 sets. Donc vous râlez un peu sur Wawrinka parce qu'il perd 3ème set.
Il perd 1ème set.
Mais en plus, après, vous vous dites, bon, bah, il faut qu'il gagne, il faut qu'il finisse avant l'obscurité, parce que s'il finit pas avant l'obscurité, moi, j'ai pas de son pour le lendemain. Enfin, j'ai des sons prétextes, hein, des sujets qui sont un petit peu annexes. Mais ce qui intéresse les gens, évidemment, c'est.
La réaction de Stanislas.
Absolument. Donc, s'il n'avait pas fini en 4-7, bah, j'ai l'impression que ce matin, les auditeurs n'auraient pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, quoi. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui font que les journées se terminent extrêmement tard. Hier, pour la deuxième fois de suite, j'ai fini après minuit au centre de presse. Donc ce sont des journées extrêmement longues.
Bon, vous remerciez
et
en tout cas.
Et la pluie, ma foi, c'est assez frustrant, quoi. Effectivement, le problème, c'est qu'il faudrait pendant la pluie essayer de faire quelques sujets. Alors, c'est ce que j'ai fait hier en allant dans les travées de Roland Garros, en demandant aux gens qu'est-ce qu'ils faisaient pour patienter. J'ai aussi demandé à un petit peu tous les badauds qui était Roland Garros. Alors il y en a certains qui vous répondent c'est un joueur de tennis, hein, qui a gagné Wimbledon, Roland Garros. Ils savent pas tous que c'est un pilote
un aviateur
d'avion. Ouais. Ce sera un des c'est ça, c'est un pilote d'avion. Donc ça, ce sera à découvrir dans quelques jours. Ils sont assez sympathiques.
Alors on est dans la première semaine du tournoi. Il y a énormément de matchs qui se déroulent sur tous les courts, hein, du plus petit au plus grand. Alors évidemment, vous allez assister au match de Wawrinka, au match cet après-midi de Roger Federer. Mais comment vous choisissez, en dehors de suivre les sportifs suisses, comment est-ce que vous choisissez les matchs auxquels vous assistez?
Ben, c'est un petit peu quand on a du temps, on va voir. Une partie des matchs hier, je suis allé voir Wawrinka. J'ai peut-être regardé un set de trop. J'ai regardé un petit peu les journalistes à côté de moi. Il y en a qui sont restés 2-7, il y en a qui sont venus à partir du 3ème set. À la fin du 3ème set, je me suis quand même levé pour partir parce que il fallait aussi que je prépare mon magazine de ce matin qui était sur la cellule météo, hein, sur la façon dont on bâche les cours, etc. Donc tout ça, tous ces sujets-là, pendant la pluie, il faut les préparer. Et on n'a pas forcément le temps de regarder ces champions. Alors bien sûr, nous, on est vraiment pratiquement sur le central. On a quoi, 20 pas à faire pour se retrouver dans la tribune de presse. Et il y a toujours ce fameux décalage, vous savez, entre l'image qu'on a à l'écran, qu'on a sous les yeux, et puis le son, la clameur formidable qui nous vient du court central. Alors moi, je me lève souvent quand même ma chaise pour aller quand même me baigner dans cette ambiance. Et mes collègues à côté, qui sont tous des habitués, parce que non seulement à Roland-Garros, le public est un public d'habitués, mais les journalistes aussi reviennent chaque année. J'ai un Belge, ça fait 10 ans qu'il est là, pour les exploits, il y a quelques années, de Justine Hénin et de Kim Clijsters. Ben voilà, ces journalistes-là, ils se lèvent plus, hein, ils continuent à bosser, et puis ils sont blasés.
Moi, je moque un peu du petit nouveau.
Absolument. Le petit nouveau, il découvre tout, mais c'est ce qu'il doit faire, c'est son rôle. Parce que, par exemple, j'ai rencontré un journaliste du New York Times qui allait vraiment être très expérimenté, intelligent, il pose des bonnes questions en conférence de presse. Il m'a dit, c'est toi qui dois réinventer la chose, la roue. Nous, on sait exactement ce qu'il faut faire. Il y a des choses qu'on n'est plus d'accord de faire, parce que, ben voilà, on est un petit peu blasé, on a un petit peu fatigué. Toi, il faut que tu fonces, et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Je vais voir l'Agence française antidopage, qui est absente du tournoi. Il faut savoir que la Fédération internationale et les agences nationales se partagent un petit peu la tâche de contrôler les joueurs. À Roland-Garros, disons que la présence de l'Agence française a été éphémère. Elle n'a pas été très bien vue, parce que, par exemple, Nadal s'était fait contrôler inopinément pendant Roland-Garros, la fameuse année où il avait d'ailleurs perdu contre Söderling.
Comme
et depuis,
bizarre,
hein. L'Agence française, ouais, c'est ça. Bon, on va pas tirer de conclusion hâtive, mais non, depuis la.
Non, on a compris.
L'Agence française est absente du tournoi. Donc, finalement, aujourd'hui, pour vous répondre, mon programme, c'est de quitter Roland-Garros pendant quelques heures, d'aller à 15 heures au siège de l'agence qui a refusé d'aller à Roland-Garros. Pour interroger justement le président de cette agence.
Avec tout ce que vous devez courir, on se demande si vous devez pas vous doper un petit peu, hein, pendant Roland-Garros.
Eh ben écoutez, je vous confie un secret. Hier, j'ai pris la liberté d'aller prendre un vélo à Paris, d'aller en louer un pour la quinzaine, parce que si je suis tout le temps dans le stade, ça va pas le faire. Il y a beaucoup de fatigue qui s'est déjà accumulée. Donc, je me suis un peu perdu hier à Paris sous la pluie. Et ce que je peux vous dire, c'est que vous connaissez la chanson « À Paris à vélo, on dépasse les autos », c'est vrai. Mais on avale quand même aussi pas mal de saloperies.
Alors, Vincent, parmi toutes les... Parce qu'on le sait, à Roland-Garros, évidemment, il y a les champions de tennis d'aujourd'hui. Il y a aussi pas mal de champions de tennis d'hier hein, qui sont présents dans le stade, dans les travées. Il y a également des stars tout court hein, qui étaient au Festival de Cannes la semaine dernière et puis qui chaque année, je sais pas, je pense à Patrick Bruel ou d'autres, qui sont dans le stade, qui regardent les matchs. Vous, est-ce qu'il y a une personne que vous rêvez de rencontrer, que vous rêvez de pouvoir interviewer pendant ce séjour, pendant ce tournoi de Roland-Garros?
Je vais être plus pragmatique. J'ai eu la chance de croiser Iva Maioli. Alors, elle était en train de payer un café au bar. J'ai à moitié agressé en lui disant « Écoutez, je suis un journaliste de Suisse romande. J'aimerais bien pouvoir vous poser quelques questions. » Elle a aimablement répondu à une ou deux de mes questions. Vous savez qu'Iva Maioli, c'est celle qui avait battu Martina Hingis en finale. Et ouais, c'était une finale surprise. Et j'aimerais avoir Martina Hingis, disons, pour compléter mon interview d'Iva Maioli, pour qu'elle nous parle un petit peu de son amitié avec cette joueuse, parce qu'elles sont amies. Et puis Martina Hingis, vous savez que maintenant elle est coach de Pavlyuchenkova, sauf erreur, et donc ce sera intéressant de rencontrer Martina Hingis, de voir aussi comment elle a évolué, parce que quand elle avait perdu contre Steffi Graf sur le central, c'était vraiment une gamine.
Une petite fille qui avait pleuré hein.
Et oui. Et aujourd'hui, j'imagine, j'espère en tout cas, mais j'en doute pas qu'elle a grandi.
Bah, j'espère que vous ne la ferez pas pleurer. En tout cas, Vincent, on vous remercie beaucoup de vous être levé si tôt, hein, vous qui avez fini très tard hier soir, pour nous raconter un petit peu les coulisses de Roland-Garros.
Oui, dans 8 minutes, il est 9h, mais ce n'est pas encore ouvert, apparemment. Hein.
Non, je ne vais pas aller tout de suite à Roland-Garros.
Et puis, si vous êtes d'accord, on se retrouve la semaine prochaine, lorsque la compétition se sera un peu plus décantée, qu'on aura peut-être des favoris qui vont commencer à émerger, en dehors évidemment de Raphaël Nadal. Belle journée.
Et on espère que ce sera Federer et Wawrinka. Bonne journée, à bientôt.
À bientôt.
Merci Vincent.
Pris de rendez-vous. Au revoir.